Voici le journal de qui ? De Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour à toutes et à tous. Qu'importe la pandémie, il faut rouvrir les frontières intérieures de l'Europe. Voilà la demande de la Commission européenne hier soir. Le secteur touristique en dépend, c'est ce que dit l'Union européenne. Mais vous entendrez que l'Allemagne notamment préfère prendre son temps avant d'accueillir de nouveaux étrangers et donc de nouveaux touristes.
Et puis dans ce journal aussi, nous nous intéresserons aux enfants qui reprennent le chemin de l'école. En France, les gestes barrières pourraient avoir des conséquences traumatisantes. Quand en Chine, les lycéens portent des bracelets électroniques pour vérifier leur température.
Nous nous interrogerons sur le report du second tour des municipales. L'Élysée s'interroge aussi d'ailleurs. Et puis dans cette édition, vous comprendrez pourquoi le coronavirus pourrait faire plonger l'économie israélienne. Après ce journal, Guillaume, la question du jour.
Eh bien oui, ça sera dans une dizaine de minutes. Clara, si vous ne dormez plus, eh bien on vous pourrait vous pencher sur vos rêves. Quel impact le confinement et le déconfinement a-t-il sur notre sommeil et nos rêves? On posera la question à une chercheuse à l'INSERM, Perrine Ruby.
L'Union européenne appelle donc les 27 pays membres à rouvrir leurs frontières intérieures. Et cela en dépit de la poursuite de la pandémie qui touche particulièrement le continent avec plus de 160 000 morts en Europe ces derniers mois. La Commission cherche en fait à empêcher un naufrage du secteur touristique qui est crucial pour l'économie de l'Union européenne. Le tourisme représente 10% de son PIB et 12% des emplois. Il faut ouvrir les frontières internes, demande donc la Commission, mais les pays membres sont pour l'instant réticents, l'Allemagne notamment. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud à l'aéroport de Berlin.
Étrange sentiment dès l'arrivée, lorsque l'on vous sépare en deux files distinctes. Les passeports allemands d'un côté, tous les autres de l'autre. Plus de passeports européens qui tiennent, il y a l'Allemagne et le reste du monde. Si vous êtes touriste, vous ne passerez pas. Il faut un motif sérieux et documenté. Et mieux vaut travailler dans la santé, les transports ou la sécurité. Une fois dans le pays, il est plus facile de circuler. Certains Länder, qui avaient un temps interdit leur accès, donc créé des frontières intérieures, ont levé leur contrôle. Mais pour aller plus à l'est, vers ces autres contrées qui ont réussi à contenir le virus, pas simple. La Pologne reste fermée aux étrangers, plus de liaisons aériennes ou ferroviaires. Et pour la Tchéquie, il faut un test prouvant que l'on n'est pas atteint du Covid-19, datant de moins de 4 jours. Cette Europe anciennement soviétique a fort mieux résisté à la pandémie que les pays de l'Ouest ou du Sud et reste plus que méfiante à leur égard, comme si la pandémie coupait de nouveau le continent en deux, 30 ans après la chute du mur.
Des frontières qui s'érigent et comme le constate l'Union européenne, le secteur touristique en pâtit largement. En France, le gouvernement promet aujourd'hui un plan Marshall, selon les mots du communiqué, un plan de relance pour le tourisme basé sur une enveloppe d'1,3 milliard d'euros. Il sera présenté après un comité interministériel ce matin. Le tourisme en France emploie 2 millions de personnes. Et à l'approche de l'été, plus d'une centaine de plages ont pu rouvrir hier soir dans les Côtes d'Armor en Bretagne, idem pour certaines plages côté Atlantique. En revanche, il faudra attendre le 25 mai au moins pour les plages en Provence. Le préfet en informait les maires hier. Au chapitre du déconfinement français encore, des élèves de maternelle et de primaire reprennent ce matin le chemin de l'école. Reprise espacée, reprise progressive à Paris, notamment ce jeudi. Depuis le début de la semaine, on a pu voir des enfants dans des cours de récréation jouant tout seuls, entourés de marquages au sol. Geste barrière oblige. Ces consignes peuvent être difficile à comprendre pour ces jeunes enfants, difficile, voire traumatisante à court terme. C'est ce que nous explique Hélène Romano, docteur en psychopathologie chez les enfants.
Alors, le plus traumatisant au sens spécifique du terme, c'est la confrontation à la mort. Cette peur de mourir, cette peur du Covid qui est plutôt transmise par les adultes. Donc, le plus traumatisant actuellement, c'est probablement l'anxiété des adultes parce que l'enfant, il est très marqué par ce qu'il vit. Il ne va pas percevoir les choses entre un petit maternel et un grand lycée. On ne perçoit pas les choses de la même façon. Ils ne perçoivent pas le temps, la durée de la même façon non plus. 2 mois dans la vie d'un petit maternel, c'est énorme. La réaction des adultes risque d'être particulièrement difficile et le changement dans leur façon d'être. C'est-à-dire le changement, et en effet, d'habitude, on joue, on check, on se fait des bisous, on va échanger les jouets, etc. Bah là, ça va être non. Avec quelque chose qui peut être aussi très anxiogène, c'est de leur dire que eux peuvent transmettre la maladie, donc ils peuvent être dangereux pour les autres, et les autres peuvent être dangereux pour eux-mêmes. Donc, ça laisse l'enfant seul face à lui-même et ça, c'est extrêmement anxiogène. Et le fait d'être marqué au sol avec une de stigmatisation, ta croix, tu dois être là, 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 il y a cette notion de perte de liberté qui n'est pas facile à intégrer pour un adulte. Alors, vous imaginez, pour un enfant, ça l'a encore davantage.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Quelle liberté aussi pour les enfants en Chine. La reprise des cours en Chine a débuté il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Les terminales et les élèves de 3e sont notamment de retour dans les lycées. Et pour éviter les contaminations, la ville de Pékin expérimente cette semaine un bracelet électronique. Dans plus d'un tiers des écoles de la capitale, les élèves ont un bracelet qui relève leur température corporelle. Dominique André.
C'est un bracelet en plastique noir que chaque collégien porte au poignet pendant toute la journée. Su à 15 ans, il est élève en classe de 3e. En tenue de jogging, il sort de cours en plaisantant avec ses copains. La technologie du bracelet l'intéresse beaucoup.
Sur le bracelet, il y a un morceau de métal qui touche ma peau. Quand le professeur passe à côté de moi avec son téléphone portable, le bracelet mesure automatiquement ma température qui s'affiche sur l'écran de son portable. Non, ça ne me gêne pas. Je sais que c'est bien pour notre sécurité, ça n'est pas un inconvénient. Après les cours, on laisse le bracelet dans la classe.
Les parents d'élèves sont plutôt rassurés, comme cette maman. Ma fille m'a dit que l'école distribuait ce bracelet. Le prof surveille en fait la température de tous les élèves. Si la température dépasse 37,2, l'élève est envoyé en urgence au centre médical. C'est très bien, les parents n'ont plus de soucis. Au-dessus de 37,2, l'alerte est donc lancée et la commission éducative est saisie. Un dépistage est alors organisé. La ville de Pékin va étendre l'expérience, mais les écoles étrangères n'y sont pas favorables du tout.
C'était Dominique André, correspondante de France Culture à Pékin. C'est une déclaration qui choque en Europe et notamment en France. Le géant pharmaceutique français promet de donner la primeur d'un vaccin contre le coronavirus aux États-Unis. Ce géant pharmaceutique français est Sanofi. Le directeur général du laboratoire tient à rappeler que Washington, les États-Unis donc, soutiennent financièrement le démarrage de la production d'un éventuel vaccin, un investissement à 30 millions d'euros que Sanofi veut récompenser. Priorité donnée aux financeurs, ce qui est selon les spécialistes la règle dans le secteur pharmaceutique. Dans la soirée hier, le groupe a toutefois tempéré dans un communiqué voulant un vaccin, dit-il, accessible à tous. Reste que les tests cliniques n'ont pas encore débuté et qu'il n'y a aucune garantie à ce que Sanofi réussisse à trouver un vaccin efficace dans les prochains mois.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le second tour des élections municipales pourra-t-il avoir lieu avant les vacances d'été?
Le gouvernement avait en effet avancé la date du 21 juin, mais l'épidémie est loin d'être terminée. L'OMS estime d'ailleurs que la Covid-19 ne pourrait jamais disparaître. Alors que faire? Organiser un deuxième tour des municipales ou le repousser d'un an? Le temps avance et la question est récurrente en ce moment à l'Élysée, Stéphane Robert.
Emmanuel Macron a toujours considéré qu'il avait 2 options pour les municipales, selon un responsable de la majorité. La première est d'organiser le second tour avant l'été, dans les communes qui n'ont pas élu leur conseil municipal au premier tour. La seconde est de repousser l'échéance beaucoup plus loin, après l'épidémie, de réorganiser 2 tours de scrutin et du coup de coupler cette échéance avec les élections départementales et régionales qui doivent se tenir en mars 2021. La première option semble avoir aujourd'hui la préférence du chef de l'État. Il veut se débarrasser au plus vite de ses municipales, explique un conseiller. Il sait qu'il n'a plus grand-chose à en espérer et il veut éviter de se traîner ce boulet électoral jusqu'à l'automne et plus encore. C'est vrai qu'il a tout intérêt à s'en débarrasser au plus vite, reconnaît un responsable de l'opposition. Et ça arrangerait beaucoup de monde que ça se tienne avant l'été, dans la majorité comme dans l'opposition. La droite en particulier promet de rester neutre dans cette affaire. Elle craint, comme lors du premier tour en mars dernier, qu'on lui reproche de faire pression et considère donc que c'est à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. Tout concourt donc à ce que le second tour des municipales se tienne fin juin ou début juillet. Mais tout dépendra aussi de l'avis du Conseil scientifique le 23 mai et surtout de l'évolution de l'épidémie. Si dans les semaines qui viennent, certains départements restent en rouge, selon le classement établi par le gouvernement, il sera très difficile d'organiser ce scrutin. La décision, nous dit-on, devrait être prise au début du mois de juin.
Merci Stéphane Robert. Là, il a fallu organiser 3 élections législatives en un an pour que, en plein confinement, le pays ait enfin un gouvernement. J'ai nommé Israël. Un nouveau cabinet dit d'urgence nationale à cause du coronavirus va prêter serment aujourd'hui. Un accord a en effet été trouvé entre le Premier ministre sortant de droite, Benjamin Netanyahou, et son rival centriste, Benny Gantz. Ils vont se relayer au pouvoir 1 an et demi chacun avec un objectif immédiat, gérer une crise économique et sociale jamais vue en Israël, avec plus de 25% de chômeurs actuellement. Ce sera difficile, note Frédéric Chilo. Elle est historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales.
Aujourd'hui, c'est donc la sortie de crise. Et cette sortie de crise, eh bien, elle se fait de façon beaucoup plus chaotique, notamment parce qu'aujourd'hui, Israël affronte le spectre d'une crise économique majeure. Et il se pourrait que Israël, qui était un élève modèle face à la crise sanitaire, se révèle un très très mauvais élève face à cette crise économique. Il pourrait être le plus mauvais élève de la zone OCDE. On parle de 50% de faillite d'entreprise, alors que la moyenne mondiale, ce serait 25%. Une récession que le FMI estime à 6,3%. Un chômage qui explose, notamment pour le demi-million de travailleurs indépendants qui se retrouvent absolument sans aide, sans indemnité. Le gouvernement promet beaucoup, mais il n'y a rien sur le terrain. Et on parle d'épidémie économique.
C'était Frédéric Chilo, spécialiste d'Israël. Israël où le coronavirus a tué 260 personnes dans un pays de 9 millions d'habitants. Frédéric Chilo répondait à Frédéric Mettezo. Quelques mots de météo enfin en France métropolitaine. Le temps aujourd'hui sera instable sur le sud, mais plus lumineux au nord, avec de belles éclaircies dans la journée. Seules quelques gouttes seront possibles près de la Manche en matinée, et puis des Pyrénées jusqu'au sud-ouest du Massif central. En revanche, le temps restera très nuageux, parfois orageux. Ce matin, il fait 11 degrés à Lille, Strasbourg et Rennes, 12 à Paris et Limoges, 14 degrés à Bordeaux et Lyon. Comptez dans la matinée 21 degrés à Marseille et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal, merci d'avoir enduit le studio également de gel hydroalcoolique. J'espère que vous êtes réveillés parce qu'on va parler de vos rêves dans quelques instants. Rêves de confinement, rêves de déconfinement, 7h12 sur France Culture.